les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour, nous sommes des élèves du dispositif Relais et on a été 5 élèves à se rendre dans l'entreprise Cartel Shop pour la finalisation d'un projet textile. Mais nous sommes 7 au total à réaliser ce programme.
Au sommaire de cette émission radiophonique, vous allez entendre Ludovic Tarieux, patron de Cartel Shop, interviewé par Vincent. Puis Enzo, jeune du dispositif Relais qui est déclencheur de ce projet, et interviewé par Luna.
Ensuite, Olivier, graffiti artiste qui a aidé à créer le logo, qui a été interviewé par Léna. La dernière interview, par mes soins, est celle de M. Schiffmacher, qui nous parlera de lui et du dispositif Relais.
Pour conclure cette émission, vous entendrez des micro-trottoirs réalisés par Stanley, Mathias et Enzo. Sachez que l'ensemble des échanges et l'interview que vous allez entendre seront entrecoupés des bruits, d'ambiance, de conseils et d'explications. Et même les machines qui tournent à plein régime.
On vous souhaite une bonne émission.
De vêtements, c'est carrément suffisant pour pouvoir faire de la sérigraphie. Donc la sérigraphie, c'est ce que vous voyez, le tunnel, le carrousel qui est au fond là-bas, et cette feuille de transfert là qu'on voit, qui s'appelle un flash, un film flash. Donc c'est un film qui est découpé dans du film inakinique parce qu'on va devoir insoler un cadre. Je vais revenir un petit peu en arrière. Là, je vous présente les grandes lignes et après, je vous explique un peu plus en détail. J'ai été obligé de commencer les choses avant que vous arriviez parce qu'il y a des temps de séchage. Donc, il a fallu que je prépare un cadre, que j'enduise un cadre. Et ce cadre, je dois en faire, pour vous parler simplement, un pochoir. Et je vais poser de l'encre dans le pochoir et quand je vais raquer ce pochoir, je vais déposer mon logo sur ce que je souhaite. Là, en l'occurrence, un t-shirt ou un sweat. Donc, on prend le logo. On le vectorise, on va le découper. Je vous le dis rapidement et après je vous montre en détail. On prend le logo, on le vectorise. Une fois qu'il est vectorisé, ça veut dire qu'on en a fait c'est un format de fichier informatique. On va pouvoir le découper avec la machine que je vous ai présentée tout à l'heure qui imprime et qui découpe. Une fois que j'ai découpé, je vais pouvoir l'écheniller à la main avec une petite aiguille, retirer tout ce qui m'embête et garder que ce qui m'intéresse. Ce film inakinique, c'est un film qui bloque 100% des UV. Donc je vais pouvoir poser ce film sur mon cadre qui est enduit, le mettre sur cette insoleuse qui est là et qui s'allume comme ça avec des lampes bien spécifiques, des lampes HPS. Et en fait, elles envoient des UV. Donc on ne la regarde pas dans les yeux quand elles sont à fond et tout ça. Je vais poser mon cadre dessus, la lumière elle va taper dans mon film. Les UV vont être totalement bloqués par le film inakinique. Et au bout de 9 minutes d'insolation, je vais le passer sous l'eau. Et tous les endroits où les UV ont été bloqués, la pâte, elle va tomber. Ça va m'avoir fait fabriquer un pochoir. Ça, c'est là. J'ai essayé de... C'est comme... Je peux pas expliquer plus simplement que comme je viens de le dire. Après, en détail, vous allez comprendre.
D'accord. Donc, en fait, de ta feuille, ce que tu as mis dessus avec ça, le fait d'avoir mis de la lumière,
ça.
Il reste...
On va l'insoler parce que c'est... comme on dit photocontact là, c'est-à-dire que les cadres que j'ai, quand je les enduis, ils sont sensibles à la lumière. Je suis obligé de les stocker dans le noir, dans un carton, dans le noir, les laisser sécher. Et quand je le sors, il faut très rapidement que je l'insole parce que chaque UV qui tape dessus abîme mon cadre.
Okay. Je prends un mouchoir. En gros, c'est une histoire de soleil et crème solaire.
Exactement. Comme si tu faisais un pochoir au soleil.
Excellent, d'accord.
Ça déchire.
Voilà, et ça va permettre, c'est la meilleure technique sur la quantité que vous avez demandé en qualité-prix. Vous allez payer un frais technique pour fabriquer ce cadre, mais une fois que le cadre il est fait, vous allez payer très peu le logo qui va être posé sur le t-shirt. C'est le frais technique qui est le plus important. Mais il est facile quand il est amorti par 50 vêtements. Vous m'auriez dit j'en fais 10, je me serais dit, oh, ça va faire cher.
C'est un camion de frais technique 40, à peu près. près de 15.
50 euros ouais. Hors taxe. Et après, tu as un frais de film. C'est-à-dire que le film qui est là, c'est 25.
Ok. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Donc on imagine, nous, on veut se faire juste, on veut juste un t-shirt personnalisé.
T'en aurais déjà pour 75 ouais, euros.
La sérigraphie n'est pas adaptée.
Ouais, c'est ça, ouais, voilà. CD.
Je l'aurais fait autrement. J'aurais découpé dans un rouleau de flex et je serais arrivé directement à cette étape-là. Sauf que là, au lieu de faire un cadre et tout, je le prenais, je le posais à la presse et en transfert et je le laissais sur le t-shirt.
Donc, ok, d'accord.
Donc voilà, on prend un rouleau de film inakinique. On le met dans la machine qui se trouve juste derrière vous, qui est une machine de découpe. Elle n'imprime pas, elle fait que de la découpe. J'ai vectorisé le fichier avec un logiciel qui s'appelle Illustrator. Donc ça a transformé ce dessin en points. Exactement comme quand on est petit et qu'on s'amuse à aller point 1, point 2, point 3 et que ça fait un dessin à la fin dans les bouquins et tout ça. Et ben ma machine, elle travaille comme ça. Elle, en fait, elle voit pas de dessin. Elle voit point 1, point 2, point 3, point 4. Donc moi, il faut que le dessin, là, je le transforme en points. Et il y a des logiciels qui sont faits pour ça. Là, je peux pas trop rentrer dans le détail parce que ça va prendre du temps. Mais voilà.
Avec ça, un... Il n'est pas si facile.
Ah, il n'est pas. Celui-là, il est très chaud. C'est ça qui est le plus long à assimiler si tu fais ça à l'école. Quoi. Et du coup, bah, une fois que c'est vectorisé, j'envoie le fichier dans ma machine. Ça, c'est comme une imprimante, sauf qu'au lieu de l'encre, bah, c'est une lame. Vous pouvez regarder, hein, si vous voulez vous approcher. Il y a un petit boîtier au fond. Je la ferai marcher tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne. Et une fois que le rouleau il sort de la machine, je me retrouve avec ça. Je l'ai fait en double en fait. Et celui-là, je ne l'ai pas échenillé.
Je me suis dit qu'il y a bien un de vous qui allait galérer un peu à toucher à ça.
C'est bien dit.
Voilà, c'est là.
Donc, ce que vous voyez là, c'est ce qui est une fois fini, ça doit donner ça. Ma machine allait passer, donc si vous vous abaissez et que vous regardez avec le faux jour, avec la lumière, vous allez voir parfaitement le dessin découpé.
On voit parfaitement le dessin découpé.
Ouais.
Ouais. L'intervention du dos, mais normal. Ouais. Il est là pour ça.
On avait oublié qu'il était là. Et du coup, eh bien, c'est assez dangereux de se lancer dans le film d'un seul coup. Le mieux, c'est de faire ça, c'est de se séparer un petit coin pour commencer. Donc, j'appuie pas trop fort avec mon cutter. Hop, et j'essaie de passer sans abîmer ce qui a été fait. Et le but, c'est avec un petit clou de soulever un côté. C'est vraiment c'est pas si facile que ça. Que ça en a l'air. En plus, le film inakinique, il est très fragile, donc il se déchire. Et si ma machine a bien coupé, vous voyez, en tirant, je vais laisser faire. Qui c'est qui veut se lancer, qui veut tester ?
Vas-y.
Allez.
Il n'y a aucun souci.
Bien joué, mon pote. Donne ton sac, mon pote. Mais oui, donne-moi ça.
Ah, vous voulez enlever vos manteaux et tout, vous mettez à l'aise.
Mettez-vous à l'aise, les champions.
Donc, tu penses qu'on peut se taxer un petit coin pour
retirer vos vestes ? Ouais, mettez-les plus sur la table, là, vous serez bien, sur le carton qui est là, par exemple.
Même juste en dessous, là, si.
Ouais, vas-y.
On a deux là, on a deux aucun.
Ouais, attends, il y a l'espace. Il y a ton sac, là, dedans.
Non, moi, il est là-bas, au fond, déjà. Tom, t'avais déjà fait, toi ?
Oui.
Alors, Tom, il a la particularité d'avoir son papa qui travaille un peu dans le même domaine que toi.
D'accord.
Qui a peut-être pas tout le même matériel, faudrait lui demander. Mais il fait de l'objet publicitaire et un peu d'impression textile, mais j'ai pas tous les détails de quel support il a. Voilà.
Donc là, je broderie et...
Question, tu fais de la broderie, toi ? J'ai vu les casquettes.
Alors, je la sous-traite, moi. Okay. C'est une des machines que j'ai pas, mais j'ai un ami à moi qui a ce calmatos, du coup, je sous-traite chez lui. T'es au top.
Bien, Tom. Vas-y, Lou. Tu veux essayer, Luna ? Tu veux essayer, toi, Vincent ? Essaie, mon Vincent. Allez, et puis si on se loupe, c'est pas grave.
De toute façon, je l'ai déjà fait. Ouais, hein, celui-là, je l'avais fait en double pour vous permettre de checker, en fait.
Allez, vas-y, Vincent.
Donc, si tu te loupes, c'est pas dramatique. Je t'ai fait tout cet espace.
Il n'y aura pas de dispute.
Ouais.
Ah, sublimation.
Il fait de la sublimation aussi. Ça s'appelle comment son entreprise ?
Matom Pub.
Pardon ?
Matom Pub.
Matom Pub, je connais pas. C'est dans quelle ville ?
Évreux,
d'accord.
Il travaille chez vous ? C'est ça, il travaille à la maison ?
Non.
Non, il a son petit hôtel ? Enfin, une autre.
C'est assez compliqué. Non, il est dans le même hôtel que les ambulances 27.
D'accord. Et ben voilà, bah c'est un peu, je sais pas si t'as, donc t'as déjà un peu échenillé, posé du flocage.
La brossette sur terre, ouais.
Ouais, d'accord.
Ouais, j'ai fait 2 ans avec lui.
Ouais. C'est cool.
J'en ai fait 3.
Ouais, c'était pénible.
Très chiant.
Très chiant. Tu veux pas forcément fermer le métier? Non. Ah, il y en a un autre qui est parti pour l'être aussi. Hein. Bien joué, Vincent.
C'était bien au début, mais après, on en fait 3000.
Ouais, c'est vrai que bah, M. Tarieux pourrait dire la même chose. Là, ça veut dire que par exemple, dans le R, il faut enlever la petite bulle, là, mon champion, non?
La fille,
ouais.
Et si on appuie un peu trop fort sur la partie transparente, ça fait quoi?
Alors, c'est pas grave. Le vrai problème, c'est si tu touches le R, en fait, que la partie que tu dois garder... Ben, ton dessin, il aura le défaut que tu auras fait d'un coup de clou parce que la lumière, elle va passer. Et à l'endroit où la lumière, vous vous doutez bien que ça s'infiltre partout. Donc, il faut absolument que le truc soit... Vaut mieux piquer son aiguille un peu plus loin de son marquage que d'être trop près bord à bord, parce que si je fais un picot sur le A, j'aurai un picot systématique sur la totalité de ma commande.
La classe!
Bien joué, Vincent. Tu veux essayer, championne? Vas-y. Attentionné, hein, championne.
C'est comme ça?
Le pic, en fait. Tu utilises le petit bout pour t'aider à décoller. Comme tu le sens, toi. Après, t'as des gens qui utilisent... ça, en fait, c'est chacun un peu son délire. C'est-à-dire qu'il y a des petites pinces qui servent de crochet, un peu comme chez le dentiste. Il y en a qui utilisent un clou. Moi, c'est ce que je fais, un picot. Et certaines personnes ont même un genre de pince à épiler. C'est une petite pince à épiler avec un petit peu plus longue qui a les dents qui descendent comme ça. Et moi, j'arrive pas trop. Hein. Vous savez ce que c'est d'avoir une habitude. Et quand on a une habitude, on n'aime pas changer. Et c'est pour ça que j'ai ce petit clou avec des scotch et tout. Mais mine de rien, il en a échenillé des kilomètres. Sinon, l'outil exact, c'est celui-là. J'ai pas l'embout qui va dessus, mais c'est celui-là. Ça s'ouvre comme ça. On met l'espèce de petit bout que je vous ai dit qui est un peu bec crochu. Et on referme. Et du coup, là, on a un stylo à grande classe, en alu, etc., qui permet de faire exactement la même chose. Ça, c'est pour les mecs à la mode.
C'est comment la sensation, Léna?
C'est fragile, hein?
Ouais.
Ça, t'en sors?
Ouais, ça va.
Tu devrais essayer de commencer plus de l'extérieur. Tu vois, là, t'es parti près de la lettre. Mais ouais. Si tu pars de par là, tu vois, tu essaies de te décoller un bout quelque part. Et comme ça, tu vas pouvoir prendre un gros morceau. Tiens, vas-y, attrape ce truc-là et étire-le vers le lettrage en essayant qu'il se déchire le moins possible pour que t'arrives à aller le plus loin. Exactement.
T'auras plus de facilité en fait en prenant un gros bout si tu veux que de vouloir prendre un petit morceau.
Donc okay. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, là tu prends le risque par exemple de toucher ton S, tu vois. Alors que si tu le prends d'ici là tu sais que tu vas rien abîmer du tout. Et regarde le S. Je l'emmène dessus, comme ça.
Ah ok.
Et hop. Tu vois?
Du coup, je fais juste les intérieurs.
Vas-y, non, même les... Continue. Mais en fait, tu prends beaucoup moins de risques. Quand tu attrapes le gros bout, tu sais qu'arrivé à ta lettre S, t'es pile poil au bord. Quoi.
Pourriez-vous vous présenter et nous dire où nous sommes?
Eh bien, je m'appelle Ludo, on est à Cartel Shop dans mon entreprise, un atelier de communication sur tout support, spécialisé surtout dans la sérigraphie textile, le marquage d'adhésifs, de véhicules, etc., décoration d'intérieur, création de logos,
etc.
Avez-vous eu d'autres métiers auparavant ?
Oui. J'ai été graphiste pendant longtemps, avant d'être à mon compte, dans des différents magazines ou journaux. Et après, je me suis mis à mon compte dans la com. Et c'est toujours, ça tourne toujours autour de l'activité d'art graphique, quoi.
Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de créer votre entreprise ?
Bah, le souhait d'avoir une vie pleine de mouvements, hein. Créer quelque chose. Il y a toujours une partie d'inconnu qui est assez intéressante, dans laquelle il faut persévérer. Rien n'est acquis, tout est à faire, et moi, c'est ça qui me plaît.
Travaillez-vous tout seul ou avez-vous des employés ?
Je travaille tout seul.
Qu'est-ce que vous aimez le plus et en revanche, qu'est-ce que vous aimez le moins ?
Bah, je fais comme tout le monde, hein. Quand il fait beau, on est content d'aller poser une vitrine en extérieur ou de poser une enseigne. Quand il fait froid, on est mieux au chaud à faire une série de t-shirts derrière un tunnel. Donc tout me convient. Après, c'est plutôt une histoire de timing, quoi.
Avez-vous une clientèle type des particuliers qui viennent ?
J'ai pas entendu, pardon ?
Avez-vous une clientèle type ou des particuliers qui viennent ?
Il y a du particulier, du professionnel, des associations, tout le monde est le bienvenu.
Avez-vous l'habitude de recevoir des élèves qui viennent vous poser des questions et qui ont le droit de toucher à votre matériel ?
Bah, rarement, mais après, il y a quand même une partie de stagiaires qui vient ici. Donc quand c'est des stagiaires, ils sont là pendant un temps à partie et ils touchent à tout. Ils sont là pour ça, pour découvrir et toucher. Donc c'est pas la première fois. Après, le faire en mode à la journée comme on fait aujourd'hui, ça c'est une première. D'habitude, j'accueille pas sur une journée.
Vous attendez, diez-vous à ça ?
Bah oui, j'ai aucune surprise en fait, hein. C'est bien, vous êtes attentif, vous posez des questions, vous allez repartir d'ici avec beaucoup de nouvelles connaissances, quoi.
Si une personne ouvrait son entreprise demain, que donneriez-vous comme conseil ?
Bah d'être courageux, parce qu'on est en pleine période de Covid, donc là c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment. Voilà, y a moins de boulot, il faut toujours payer autant de charges. La dure loi de la France, quoi. Donc je lui dirai courage.
Merci de nous avoir accueillis et bonne continuation.
Bah, de rien, merci beaucoup à vous d'être venu, puis j'espère que ça vous a plu.
Sur ce carrousel se trouve un cadre, une Jeannette. Sur la Jeannette, on enfile.
Bah, c'est quoi les noms en fait ? On connaît pas les termes techniques. Ça, c'est.
Je viens de le dire, c'est un carrousel. Ça, c'est une Jeannette sur laquelle on enfile un t-shirt. Et ça, c'est un cadre. Le cadre, c'est ce fameux pochoir qu'on a fabriqué. Donc, le principe est simple. Je prends un t-shirt, je l'enfile sur la Jeannette, je ramène mon cadre, je le pose dessus, je mets de l'encre, je rack, je soulève, l'encre est passée à travers, le t-shirt prend vie. Je retire ça, parce que là, si je touche avec mon doigt, c'est tout mouillé, c'est humide là, vous voyez, c'est de l'encre. Et pour que ça sèche, je dois le faire passer dans ce tunnel. Et là, j'ai fini mon job. Quand il tombe de l'autre côté, il y a des tubes infrarouges à l'intérieur qui chauffent à 138 degrés et qui envoient un rayonnement. Et ce rayonnement, il va faire que l'encre sèche.
D'accord.
Et cette encre-là, si je la laisse pendant 8 ans sur le cadre là comme ça, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être du jaune que j'ai utilisé avant Noël et tout ça, et je ne l'ai jamais rangé, je ne l'ai pas fermé. Ça, c'est du bleu que j'ai dû utiliser au mois de septembre, et comme je n'avais pas ce bleu, je l'ai laissé là, je mets un petit bout de papier dessus pour que la poussière ne tombe pas. Mais ce n'est pas possible de faire sécher cette encre sans cette machine.
D'accord.
Okay. C'est plutôt cool qu'elle ne sèche pas. Ouais, parce que sinon, bah, ça serait une grande galère.
Et puis même aussi en gain, j'imagine.
Et celle que vous avez là, dans les bidons en ferraille, elle sèche à l'air. C'est-à-dire que j'aurais fait la même chose, là, tout ça, ça serait devenu du vrai ciment et ça m'aurait bouché tous mes câbles. Et il m'aurait fallu plein de produits chimiques pour déboucher le câble.
Et pourquoi ?
Parce que celle-là, c'est des encres qui sont faites pour le polyester et le nylon.
D'accord.
Et du coup, on ne les fait pas passer à haute température, sinon ça s'abîmerait. Donc quand on veut marquer des kawés, des sacs de sport et tout ça, on utilise d'autres encres qui s'appellent de la Nilobag. Et elle sèche à basse température. Donc on peut la passer dans le tunnel, mais à 40 degrés, 50 degrés, puis on laisse sécher à l'air libre sans la table. Et c'est hyper galère, parce qu'en fait, tu ne peux pas t'arrêter dans ta série. Genre, le téléphone sonne, je ne vais pas décrocher.
Voilà.
Parce que je sais que le temps que je réponds, quand je vais revenir, je vais galérer à déboucher le cadre.
ça va très vite. D'accord. Du coup, on utilise pour le coton de l'encre Plastisol et pas Nilobag. Et la Plastisol, c'est des encres qui sèchent avec un rayonnement infrarouge.
Ok, nickel.
Alors, est-ce qu'il est arrivé de l'autre côté, ce t-shirt ?
Ouais.
Donc, 1 minute 40 à peu près après, le t-shirt est arrivé. Et là, vous pouvez toucher. C'est le moment de sortir vos mimines. Et vous avez un vrai marquage professionnel de sérigraphie. Comme si vous étiez payé un t-shirt, Nike, Adidas, ou autre dans le commerce. C'est comme ça qu'on fait un...
Des beaux, le violet.
Un vrai marquage. Violet,
oui. Ouais.
C'est celui-là que vous voulez enrager, je crois. Que tu
ouais, voulais. J'aime bien. On a surnommé le violet vampire un peu.
Voilà. Qu'en pensez-vous? Des questions? Donc je vais vous montrer maintenant, dès le départ, comment on en fait. Pour fabriquer le cadre, je reviens juste une minute avant. Ça, c'est un cadre qui n'est pas enduit, c'est-à-dire que c'est un cadre vierge. Là. Ce cadre-là, je l'enduis avec des spatules et de la pâte. Cette pâte, on appelle ça une émulsion. Et c'est cette émulsion qui va être sensible à la lumière et qui va me permettre de fabriquer le pochoir. Quand j'ai enduit ça d'émulsion, l'émulsion ça fait un peu comme de la soupe, c'est un peu caoutchouteux, tout ça. On le met dessus, on le met à plat dans le noir et on le fait sécher avec un petit radiateur soufflant par exemple. Mais dans le noir, il ne faut absolument pas que la lumière touche le cadre. Après, une fois que ça a séché, je les range dans un carton avec un couvercle et tout pour qu'ils soient toujours dans l'obscurité. Et quand j'ai besoin, je vais me chercher un cadre. Je fabrique mon film et j'insole et je fabrique. Une fois qu'il est séché, qu'il est passé à la lumière, il n'y a plus aucun danger. Je scotche les contours pour éviter s'il y a des petits trous, des petits défauts que l'encre passe à travers. Vous avez vu, j'ai scotché tout l'intérieur du cadre. Ça, c'est un cadre vierge. Et ça, c'est un cadre enduit. Celui-là, c'est un loupé. En fait, il n'y avait pas assez de chauffage dans la pièce. Du coup, quand je l'ai mis à sécher, il a eu le temps de faire des gouttes avant de sécher. Du coup, je ne peux pas l'utiliser. Sinon, quand je vais raquer, ça va me faire des différences d'épaisseur. Ça ne va pas me poser la même épaisseur d'encre sur le maille. Mais quand c'est enduit, c'est comme ça. En l'occurrence, ça devrait être tout lisse, tout plat, comme vous voyez là, partout. Il ne devrait pas y avoir toutes ces gouttes. Donc celui-là, je vais le dégraver. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé votre série, où celui-là est loupé, je mets un produit, je laisse agir, et avec un karcher, je rends le cadre comme à l'origine.
Oh, au karcher quand même
Ah, il faut un karcher, haute pression, 180 bars minimum, et il faut pas mal de produits et tout, hein, c'est une galère. Du coup, on ne les fait pas un par un, les cadres. C'est-à-dire que j'attends d'avoir au moins 10-15 cadres de salle pour me faire une matinée, des gravages, etc., pour mettre tous mes cadres au temps. C'est de la toile quoi. Donc on dit que celui-là je le sors du noir, je le prends, je mets mon film dessus, je le positionne avec des scotch. Donc la position, je me mets en place devant la machine pour regarder plus ou moins où va tomber. Et puis ça fait aussi plus de 10 ans que je fais ça, donc je sais à peu près sur mes cadres où il faut le mettre. Okay. Une fois c'est scotché, je le mets là-dessus, on allume et la machine elle va insoler. Les rayons vont taper dans le cadre pendant 9 minutes. Je vais décoller ça et tous les endroits où il y avait du film inakinique, ça va avoir fait un marquage, ça, cette couleur un peu jaune. Et juste en le mouillant à l'eau, eh ben, ça va me faire l'empreinte que vous voyez là-bas. C'est bon ? Je prends un t-shirt. On le veut en position poitrine. Je rentre le t-shirt en entier, je me repère un petit peu avec les coutures, comme ça j'ai fait un trait au centre de ma jeannette pour voir si je suis bien au milieu de mon col. Non, c'est pas de ta faute, par contre, je veux bien que tu appuies sur l'interrupteur derrière. Hop, là j'attrape les deux dessous de bras, vous voyez la planche, et je fais ça, comme ça, là je vois que je suis droit, et maintenant je vais le tirer. Et je vais le mettre au bord de ma couture ici.
Okay.
Et quand j'ai réglé ça, il y avait le trait au milieu. Ça m'a permis de centrer le logo. Je sais que le logo, il fait 25, donc le trait devait être à 12,5 au milieu. J'ai fait ça avec le petit réglé qui est là. Et après, j'ai serré fortement avec la petite BTR qui est là pour que mon cadre ne bouge plus. Et pour la position, la hauteur, j'ai deux poignées qui se trouvent en dessous et qui me permettent d'avancer ou de reculer. Donc, je prends mon réglé. Moi, je veux être à 5, puisque je sais qu'à 5, ça va faire bien pour un logo comme ça. Je me positionne là, je descends. Je vois que je suis au bon. Voilà, là je fais ça, je vois ma règle qui tombe sur mon logo là, Solidarité. Et quand je regarde, je suis à 5 cm de la couture. Okay. Donc je vais serrer les deux poignées là-dessous. Et là ça ne bouge plus.
Ok.
Maintenant que ça ne bouge plus, dès que mon t-shirt est positionné, ah, j'avais omis de vous dire. Ça c'est une bombe de lac pour les t-shirts. Je fais ça et mon t-shirt il colle sur la planche.
D'accord. Là, oui, ça permet quand...
là
il permet
d'être bien. Okay. Là, je suis bien à plat. J'avais oublié de vous dire ça parce que j'en mets pas à chaque t-shirt en fait. Mais la planche, elle colle un petit peu. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Maintenant que je suis bien positionné, je ramène mon cadre. Il y a des encoches ici, c'est pas moi qui choisis. Hein. Il y a des encoches là.
Ouais.
Et j'ai la même sur le bas de mon cadre. Et quand je descends, Damien, si tu peux éviter, c'est pas gentil. T'arrives à tenir tout seul debout sans t'appuyer hein. Et une fois qu'on est vers le bas, on positionne, on est à plat contre le t-shirt, on ramène son encre, on l'étale.
Il faut appuyer fort, il faut passer plein de fois.
C'est quoi le rudiment ? La première chose, c'est étaler l'encre. Il faut qu'il y ait de l'encre sur tout le logo.
D'accord.
Une fois qu'il y en a sur tout le logo, je reviens en arrière, j'incline un tout petit peu comme ça et je tire.
En très légèrement appuyant peut-être.
J'ai pas appuyé fort, pas appuyé. Parce que normalement c'est pas nécessaire, on va regarder.
Ah ouais.
Et en l'occurrence, il n'y avait pas besoin d'appuyer quand même une brute.
C'est magique quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez vous ? C'est rigolo parce que il a expliqué tout le process et là d'un coup on voit illustrer la chose.
Et ce qui fait en fait que le succès de la sérigraphie, c'est la finesse des traits. C'est-à-dire que comme on travaille avec de la lumière. Pour fabriquer le pochoir, on peut aller dans le détail. On peut faire des cils, on peut faire des traits.
C'est pour ça que là, les petites coulures, par exemple,
elles sortent super bien. Elles passent super bien parce que voilà, c'est précis. C'est fait avec de la lumière. C'est autre chose qu'une machine, qu'une âme, qu'un bordel. Et là, maintenant que c'est pris,
au séchage,
je le soulève. Il colle un petit peu le t-shirt. Ouais. Pour éviter de mettre tout le t-shirt, parce qu'en fait, il y a de l'humidité dans le t-shirt et ça fait de la fumée. Donc pour éviter la fumée, on fait un pliage. Comme ça, on a moins de surface de coton à l'intérieur.
Ça chauffe à combien le tunnel ?
140. C'est marqué sur le côté et 140 degrés.
Et comment dire
et là, ça dépend des textiles. Quand c'est du blanc, par exemple, on baisse un peu la température, sinon ça jaunit.
Là, quand par exemple, le projet, c'est deux dessins, il y a un devant, un derrière.
Ouais.
La logique veut qu'on fait tout ce qui est devant dans un premier temps, et après, on revient pour la seconde partie.
Tout à fait. Tu pourrais pas faire le logo de devant sans qu'il soit séché. Tu le mets comment après ? Ça s'abîmerait. Tant qu'il n'est pas sorti du tunnel, le logo est fragile et il est humide. Donc, tu es obligé d'aller au bout de ton étape, poser un premier logo et après de refaire un logo.
Là, c'est en 15-20 secondes, il passe le tunnel. On peut, dans la foulée, potentiellement faire la deuxième.
1 minute 40.
1 minute 40.
Un peu moins de 2 minutes, ouais.
Et on peut, dans la foulée, potentiellement faire la deuxième maquette. Une fois que c'est sec là-bas, que ça sort, c'est bon.
Voilà, si j'avais fait deux cadres, j'aurais fait un cadre pour le devant, un cadre pour le dos. Mais moi, comme je suis une pince, j'ai mis un logo là et j'ai scotché, j'ai mis un autre logo en dessous. Et je vais retourner mon cadre tout à l'heure. Donc, tu vas être obligé d'être patient et d'attendre que j'ai fait tous les cœurs pour pouvoir faire le dos.
Okay.
Et ça, c'était juste pour économiser un petit peu, vu que j'avais la place de mettre les deux. L'émulsion que je mets sur le cadre et tout ça, ça a un coût. Là, je vous explique tout de façon simple, mais les émulsions, les ampoules qui sont là-bas, tout ça, ça a un coût.
Un coût, hein.
Une ampoule comme là-bas, ça doit être dans les 200 euros hors taxe, une ampoule. Il y en a deux.
Quand on les utilise, c'est des ampoules qui doivent consommer 350 watts. Donc ça fait 700 watts quand même quand on l'allume. La machine qui est en train de faire rayonner le t-shirt et le sécher, elle consomme 10 000 watts.
D'accord.
Un truc comme ça. Donc c'est un câble spécial qui est super gros. Je vous laisse mater un peu le truc.
Ouais.
On est sur du triphasé, tout ça, ça ouais, consomme.
C'est dégueu, c'est
donc il y a quand même, c'est très énergivore.
Et en termes de qualité d'encre, quand on n'en a pas parlé, c'est une encre forcément spéciale hein, pour
c'est
l'impression.
C'est la Plastisol, je l'ai présenté tout à l'heure au début du projet. Et en fait, c'est de l'encre qui est faite pour le coton et qui sèche avec un rayonnement infrarouge. Et c'est la meilleure des encres que tu puisses trouver pour la tenue dans le temps. Après, aujourd'hui, il existe aussi des encres à l'eau, tout ça, beaucoup plus écologique. Et il peut arriver pour certaines commandes, quand c'est demandé, qu'on utilise des t-shirts ou des textiles en coton bio avec des encres à l'eau.
D'accord. Donc ça se développe de plus en plus ?
C'est des demandes spécifiques. Mais en fait, malheureusement, quand on veut faire les choses bien, c'est-à-dire être écolo et tout ça, ça coûte plus cher. Donc les t-shirts bio sont plus chers. Le marquage à l'eau, c'est un petit peu plus galère parce que moi, je ne l'ai pas en stock. Donc autant je pourrais être cool, là, tu me dis je veux du violet, je te demande pas un euro pour que tu aies du violet. Si tu me dis que tu veux des encres à l'eau, je vais te facturer ton pot d'encre à l'eau. Parce que moi, après, dans et le temps...
Mais par exemple, est-ce que c'est dans l'air du temps, il y a plus de gens qui s'adressent à toi avec ce type de demande ?
Il y a beaucoup d'entreprises, comme on le sait aujourd'hui, qui sont sensibles justement à la chose, à l'écologie, et qui, oui, demandent à faire du t-shirt avec, de façon écolo, encre à l'eau et coton bio.
C'est bien intéressant.
Bonjour, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu ?
Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 14 ans et voilà.
Il me semble que tu as effectué un stage, où était-ce ?
Alors, je suis parti en stage à la Croix-Rouge suite à des faits de ma vie. Donc, je suis parti en stage à la Croix-Rouge dans cette association parce que j'adore donner aux gens, j'adore le travail. Donc, voilà.
Comment cela s'est-il déroulé ?
Donc en gros, on commençait à 10h, on chargeait les camions, on allait à la banque alimentaire, on faisait le tri ensuite à la Croix-Rouge et on distribuait aux personnes dont le besoin était nécessaire.
Comment est venue l'idée de produire des t-shirts ?
Donc en gros, j'ai été placé sur le dispositif relais il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a une petite année quand même. Et on a été amené à monter sur un projet art urbain. Donc voilà, avec un animateur Olive, un très bon animateur même. Et bah, du coup, c'est ce qui m'est venu un peu l'idée et travailler avec les autres. De remercier toutes les personnes, entre guillemets, qui nous ont mis en stage ou même les patrons, entre guillemets, qui nous ont entrés dans leur stage. Et du coup, bah, j'ai décidé de travailler cet art urbain, donc la sérigraphie pour les remercier avec une petite phrase et puis voilà.
Comment avez-vous organisé la réalisation du logo ?
Bah en gros, au début, on avait plusieurs idées et on avait plusieurs principes dans lesquels il y avait des phrases, des sujets et ce qui m'est venu à l'idée avec un collègue à moi de réaliser une phrase globale avec un mot de remerciement donc au plein milieu. Du coup, on a fait une sorte de cercle avec une phrase de remerciement et puis avec un logo.
Quel est ton ressenti d'être là aujourd'hui ?
Bah, le plaisir en vrai de vrai parce que bah, les gens nous aident et puis voilà, ils sont là pour nous aider et puis je tiens aussi à les remercier et c'est pour ça que je suis là, j'essaye de m'accrocher et puis franchement merci à eux.
Qu'en attends-tu ?
Bah, d'avoir une autre vision du monde entre guillemets, de voir que peu importe les jugements qu'on peut faire d'autres choses, qu'on est talentueux, qu'on a plein de choses, donc ouais franchement c'est des bonnes expériences de vie et c'est cool.
Quel sentiment ressens-tu après tout ça ?
Bah, le bien-être, de pouvoir s'exprimer et voilà.
Je te montre et je te le remets en position bizarre, d'accord ? Moi, je fais quoi ? Je le tire comme ça. J'utilise mes deux coutures, tu vois ? Je les mets au même endroit, les coutures. Une fois qu'elles sont au même endroit, je tire un peu comme ça.
pose pile poil au bord. Et je vérifie en fait ma largeur en attrapant les dessous de bras. Et quand je fais ça, que je descends, là je vois, il demande à revenir par là, tu vois. Voilà. Et là, si tu touches, parfait. J'ai le même espace des deux côtés, je suis bien droit. Si tu mets pas ton t-shirt droit, ton logo forcément ouais. Il sera pas bien positionné.
Ok.
Débrouille-toi maintenant. Ah non, en plus tu boules des carottes. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez fait un logo qui est rond. Donc c'est super pratique, parce que si on met le t-shirt de travers, ça restera toujours un rond. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a que le Fanx qui va nous trahir un petit peu, mais quand on a un logo qui est en rectangle, s'il y avait écrit par exemple dispositif relais, et ben quand on se met, quand on se met de travers, ça se voit tout de suite. Alors qu'un rond, on a peu de chance que ça se voit. Ah ouais, là t'es au top. Pour moi, t'as l'air au top. Donc maintenant, tu passes ta main comme ça, tu repasses ton t-shirt pour bien être sûr qu'il colle à la planche. Voilà. Tu attrapes ton cadre. Tu le ramènes au-dessus. Voilà. Tu peux abaisser. Ton t-shirt, il est en place. Là. Toi, tu l'as bien positionné, tu l'as repassé avec ta main, il bougera plus le t-shirt. Maintenant, tu peux appuyer, mais tu vas doucement redescendre. Tu sens le petit cran, ouais. T'es rentré dedans, donc là c'est bon.
Okay.
Maintenant tu peux lâcher le cadre, il va pas remonter tout seul. Tu l'appuies un petit coup comme ça et tu prends ta spatule et tu ramènes l'encre dessus.
Okay. Comme ça.
Voilà, là t'as tout recouvert. Maintenant que tout est recouvert, tu reviens là. Et là, tu vas mettre tes mains, voilà, les deux, une par là, une par là.
Okay.
Et tu fais comme ça, regarde, je vais te montrer. Comme ça, tu appuies un petit peu, comme ça, pas plus. Ouais. Mais il faut que l'encre, elle passe. Donc, okay. Faut que tu appuies assez fort, comme ça. Et tu recommences. Au top. Maintenant, tu vas poser ta spatule au fond. Ouais, un peu plus incliné pour pas qu'elle retombe. Parce que tu sais, quand tu la mets droite, elle tombe là et tu galères à nettoyer la spatule. Donc là, tu l'as posée, elle tient bien. Maintenant, il faut que tu soulèves, mais tu vas coulos. Parce que tu veux pas que ton t-shirt se décolle. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Et tu regardes ton boulot, ce que t'as fait. Et là, tu t'aperçois de quoi ? C'est parfait ?
Je pense.
Et ben non. Regarde l'intérieur du cas.
Ah ouais, faut avoir l'œil, il peut pas donner ça du coup.
Regarde l'intérieur du E, le haut du C, le bout du N. En fait, t'as pas appuyé suffisamment fort, ce qui fait que regarde là le A. Ouais, il y a des endroits où il n'y a pas eu d'encre. Du coup, il n'y a aucun problème. On revient, et comme on est calé au millimètre, t'as juste à redescendre ton câble, le remettre en position, vas-y.
C'est
le t-shirt, lui, il n'a pas pu bouger, il est collé à la planche. Et toi, t'as une encoche qui te remet au millimètre près où t'étais. Donc en fait, il n'est pas trop tard. Là, t'as flippé. Juste à rabaisser ton truc.
Elena, t'as flippé.
Ah,
t'as flippé
un peu.
T'as flippé.
Prends-le.
Un peu. Comme ça.
Voilà. Et là, t'appuies un peu plus fort. Un peu plus fort, du coup. Okay. Là, on t'a reproché que l'encre n'est pas suffisamment passée. Voilà. Oh là, avec le bruit que j'ai entendu, pour moi, c'est nickel. Tu soulèves ton cadre. Tu décales. Faut que tu pousses. Un carrousel, c'est comme un manège. Tu sais, les manèges qu'on voyait à l'époque là, avec les chevaux qui montent, qui descendent. On appelle ça un carrousel, le fait que ça tourne. Et là, ton truc, il est nickel de chez nickel.
À part là, un peu. Hein.
Attention à vous. Alors, je vais regarder. Pour...
Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Alors, je m'appelle Olivier, graffeur. Mon pseudonyme est Vapeur.
Quel âge as-tu ?
40 ans.
Quel est ton métier ?
Je suis graffeur.
Raconte-nous ton parcours.
Mon parcours, j'ai commencé en fait en tant que technicien pendant 10 ans dans une société de pharmaceutique où on fabrique des médicaments notamment pour l'asthme. Et suite à ça, il y a eu un PSE et en fait en 2009, j'ai préféré partir pour me consacrer entièrement à ma passion et en faire mon métier.
D'accord. Quelle est ta relation avec le dispositif relais et comment ça se passe ?
Ma relation avec le dispositif relais. En fait, j'interviens en tant qu'intervenant culturel pour proposer des activités liées au graffiti. Comment ça se passe ? Et ben, ça se passe tous les lundis après-midi et jeudi après-midi tout au long de l'année scolaire.
Concernant le projet T-shirt, comment ça s'est déroulé ? Quelles ont été les étapes ?
Alors, le déroulement de ce projet, en fait, c'est un jeune qui a émis l'idée de faire des t-shirts pour plusieurs structures, notamment Emmaüs et toute autre structure qui propose de l'aide à des personnes qui en ont besoin. Les étapes, en fait, on a commencé par des petites réunions avec les jeunes pour récolter toutes les idées de chacun, les mettre en forme et essayer de trouver un slogan entre guillemets pour après passer sur un logiciel informatique, mettre ce slogan sur un t-shirt. Et après, les étapes ont été de trouver une société en fait de sérigraphes pour pouvoir derrière mettre le logo sur les t-shirts.
Est-ce la première fois que tu mènes un projet comme celui-là avec des jeunes ?
Alors, sur un projet pour des t-shirts, oui. Après, j'ai mené d'autres projets, entre guillemets, de fresques ou autres, avec d'autres structures que le Dispo Relais.
En tant qu'artiste, quel a été ton plus grand projet ?
Alors, en tant que graffeur, entre guillemets, mon plus gros projet a été un mur de 11 mètres par 11 à Louviers. Et après, d'autres projets collectifs où on part sur des murs de plus de 500 mètres carrés.
Es-tu déjà allé graffer à l'étranger ? Sinon, aimerais-tu aller graffer ? Où aimerais-tu aller graffer ?
Je suis déjà allé graffer à l'étranger, notamment en Espagne. Oui, on est toujours envieux d'aller voyager ailleurs que dans son propre pays.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ?
Avant tout, la passion et les rencontres.
Depuis combien de temps interviens-tu au dispositif relais ?
J'interviens au dispositif relais depuis janvier 2016.
En dehors du dispositif relais, donnes-tu des cours de graphe ?
Non, pas forcément.
Depuis combien de temps fais-tu du graffiti ?
Environ 20 ans.
Fais-tu partie d'un collectif ?
Alors, je fais partie de trois collectifs qui sont basés plus ou moins en France.
As-tu un souvenir à nous raconter, une anecdote à partager ?
J'ai plein de choses, plein de souvenirs dans ma tête. Après, une anecdote précise à vous raconter, pas forcément.
Le monde entier y est confronté. Toi, en tant qu'artiste graphe, est-ce que le Covid-19 t'a dérangé dans ton travail ?
Alors, comme tout le monde, le Covid-19, oui, m'a dérangé, entre guillemets, car j'ai eu plusieurs projets qui ont été annulés au cours de l'année 2020. Et je pense malheureusement que ça peut être le cas aussi en 2021.
D'accord, bah c'est tout pour moi.
Très bien.
Merci à toi.
Merci.
Je vais nettoyer un tout petit peu, tu vois, c'est seulement pour nettoyer. Voilà. Tu vois, un petit peu là, parce que t'as vu, le cas, il pose des problèmes depuis tout à l'heure, le cas. Et quand je regarde bien, regarde avec moi. Regarde l'intérieur du cas, tu vois pas comme une tache dedans ?
Ouais, il y a une tache là.
Il y a une tache, hein. Ouais. Moi aussi, je l'ai vu. Et c'est peut-être elle qui est. Tu vois, c'est un petit truc qui a séché. Et en fait, je dis attends, je vais t'en donner. Ah ouais. Ah, c'est ça. Ça, c'est bien, je vois ça.
En plus de là,
ah là, t'es obligé de te nettoyer tout le cadre là.
Ouais. Ah, parce qu'on fait des t-shirts gris de violet. Et... là, je vais beurrer en dessous. Tu vois ce que je veux
d'accord,
dire
ou... ouais. Le bruit est là.
Et toi, tu sors quand, alors, on va dire en termes de production.
Ouais.
Toi, quand tu es sur cette machine-là,
ouais.
Tu fais combien, on va dire, de t-shirts en
300 par jour.
300 par jour. Et si on, là, par exemple, le temps qu'ils en fassent un, toi, t'en ferais combien?
Bah, je m'en rends pas compte là.
Ouais, tu te rends pas compte, ouais, c'est ça. T'arrives pas à voir.
Là, je suis pas dans le game là. Après, ouais. Moi, mon but, c'est que je peux y passer ma journée, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Je regarde juste si je vois pas d'autres tâches à droite, à gauche. Voilà. Là, on a l'air pas mal. Moi, je vais réessuyer avec un autre chiffon. En l'occurrence, blanc. Comme ça, on va voir si ça va nous faire. Sinon, je vais salir le t-shirt que tu vas mettre, tu vois. Tu vois. Alors, tu vois, dans la sérigraphie, tu as toujours des bacs et un chiffon.
Il reste.
Si vous voyez un vieux slip dedans, c'est pas grave.
On s'en sert quand
même.
On
jette le rêve.
C'est une blague.
Ah non,
tu
n'arrêtes pas.
Bonjour, qui êtes-vous?
Alors bonjour Tom, je m'appelle Julien Schiffmacher. Je suis actuellement coordonnateur du dispositif Relais d'Evreux. Avec mon homologue Alexis Pasquier, qui est aussi coordonnateur du dispositif Relais.
Quel a été votre parcours professionnel?
Alors, mon parcours professionnel, il est assez simple, hein, finalement. Pendant mes études, j'étais surveillant dans des établissements scolaires, donc différents collèges sur Évreux. Ça m'a donné envie de travailler auprès des jeunes, collégiens et aussi des plus jeunes enfants, donc en primaire. Et donc j'ai passé un concours de l'éducation nationale qui s'appelle professorat des écoles, que j'ai obtenu. Et en fait, j'ai enseigné dans différentes écoles primaires au début de ma carrière. Et après, je coordonne le dispositif Relais depuis 2008.
D'accord. Qu'est-ce que le dispositif Relais et depuis combien de temps la structure existe-t-elle ?
Alors, le dispositif Relais, c'est un dispositif qui accueille des jeunes en situation de décrochage scolaire. C'est un dispositif éducation nationale avec différents partenariats. Le partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, qui a pour vocation à faire de la prévention auprès des jeunes en situation de décrochage. Et la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement, c'est une association qui travaille autour de l'éducation populaire.
D'accord. Depuis combien de temps la structure existe-t-elle?
Alors, les classes relais en particulier, parce que dans les dispositifs relais, il y a ateliers relais et classes relais. Pour les classes relais, elles sont nées d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice. Et les premières classes relais ont ouvert en 1998. Et à Évreux, d'ailleurs, la classe relais d'Évreux a été pionnière, dans le cadre des ouvertures dans les différentes académies en France.
Qu'est-ce que cela apporte aux jeunes ?
Alors en fait, on accueille ponctuellement des jeunes dans leur parcours de jeunes collégiens pour leur permettre de reconstruire un projet. La finalité, c'est ça, qu'ils puissent réinvestir le champ scolaire au travers de différentes actions qu'on peut mettre en place grâce à des petits effectifs et un travail le plus individualisé possible pour répondre au mieux à leurs besoins.
Où êtes-vous situé ?
Alors le dispositif Relais à Évreux, actuellement, il a évolué depuis 2 ans maintenant. On a différents lieux d'accueil, mais la classe Relais, avant ce qu'on appelait la classe Relais, elle est rattachée au collège Paul Bert à Évreux, Donc c'est une petite maison, une petite structure qui est dans l'enceinte de l'établissement. Et il y a l'atelier relais où on a un pavillon qui est situé au cœur de Netreville, à l'extérieur du collège. Et aussi, grâce à la Ligue de l'enseignement, ils nous mettent à disposition une pièce, un local, afin d'accueillir aussi des groupes de jeunes.
Comment se passe la prise en charge ?
Alors, la prise en charge d'un élève, la prise en charge idéale, en fait, on est sollicité par différents établissements scolaires, donc des collèges. Hein. On a une quinzaine, voire une vingtaine de collèges partenaires. Ils nous contactent pour nous faire part d'une situation d'un jeune qui est en situation de décrochage. On rencontre le jeune au sein de son collège d'origine pour lui présenter en fait le projet, le dispositif et savoir s'il peut adhérer au projet. Ensuite, on rencontre le jeune et la famille au sein du dispositif pour que le jeune puisse se projeter dans sa venue au sein du dispositif, parce qu'un jeune qui vient d'une autre ville ou d'une autre commune ou même d'un autre établissement dans Évreux, il faut qu'il puisse se projeter et voir les locaux. Et là, on met en place des entretiens de candidature. En parallèle de ça, le collège d'origine constitue un dossier d'admission, de demande d'admission. Ces dossiers sont par la suite étudiés en commission d'admission. Et c'est la commission d'admission qui valide l'intégration des jeunes au sein du dispositif relais avec les différents types de prise en charge possibles.
D'accord. Que faites-vous concrètement avec les jeunes ?
Alors, concrètement, on fait un peu de tout, c'est-à-dire on a un rôle central de coordination entre les actions qu'on va mettre en place avec tous nos partenaires, les emplois du temps qu'on met en place pour les jeunes qu'on accueille. On a un rôle d'enseignant, parce qu'on est enseignant avec Monsieur Pasquier à la base, donc on enseigne certaines disciplines. On a aussi une équipe pédagogique qui intervient au sein du dispositif. Et donc, on est à l'interface de toutes ces personnes afin de mettre en projet le jeune. Et on a pour rôle central de coordonner entre la famille, le jeune, l'établissement scolaire d'origine et les actions internes au dispositif relais.
Quelles sont les différences avec une scolarité entre guillemets classique et le dispositif relais ?
Alors la différence, il y a beaucoup de différences. La scolarité classique, on est intégré dans une classe avec un certain nombre de jeunes, parfois des classes un peu surchargées. Alors ces jeunes-là ont un emploi du temps que vous connaissez classique, avec un certain nombre de cours de français, de mathématiques, d'histoire-géo, d'éducation musicale, de PS, etc. Je vais pas toutes les citer. Et sur le dispositif relais, on essaye de répondre au plus près aux besoins des jeunes que nous accueillons en leur proposant des situations d'apprentissage adaptées, en prenant le temps de façon très individualisée à les accompagner vers une reprise de confiance en soi, tant au niveau des apprentissages scolaires et de la scolarité que d'une projection vers une formation choisie, adaptée après le collège. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question, Tom.
Parfait. Mais... parfait. Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté au quotidien ?
Alors plein de choses. Déjà, travailler avec des jeunes, ça nous apprend beaucoup sur nous, à s'adapter beaucoup hein, aux différentes situations. En fait, on apprend avec les jeunes. Et comme notre projet est basé aussi sur la coparticipation, finalement, dès qu'on fait un projet avec un jeune, on le fait avec eux. Dans l'accompagnement, sur certaines actions, que ce soit sur les modules artistiques, culturels, même d'enseignement, les situations d'enseignement, on est en permanence en train de faire avec eux, de pratiquer et de travailler. Donc on est en immersion complète avec ces jeunes, que ce soit à la demi-journée ou à la journée complète, voire à la semaine. Et de ce fait, c'est des compétences qui sont d'ordre social, je sais pas. La question initiale, c'était quoi, Tom ?
Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté au quotidien ? C'est la question initiale.
C'est la question initiale. Ça m'apporte beaucoup de. Alors, si je passe. Enfin, là, c'est vraiment une question personnelle, donc beaucoup de satisfaction de voir les jeunes arriver au sein du dispositif avec une certaine posture et de repartir avec une confiance parfois qui est rétablie auprès des adultes ou voire même de l'institution. Et du coup, c'est très satisfaisant.
D'accord. Avec quel partenaire travaillez-vous ?
Alors, ils sont multiples. Il y a les partenaires institutionnels, donc l'éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse. On travaille en lien avec la communauté d'agglomération d'Évreux, la mairie d'Évreux. Donc ça, c'est plutôt pour le conseil départemental. Il ne faut pas oublier le conseil départemental qui gère tous les élèves du second, enfin tous les collégiens. Après, on a les partenaires. Alors ça, c'est les partenaires institutionnels et financiers. Et on a les partenaires après intervenants. Et donc là, on travaille beaucoup avec le milieu associatif. Donc on développe un certain nombre d'actions avec des associations locales. Que je pourrais te citer, hein, Tom, mais il y en a pas mal, que ce soit dans le cadre des projets artistiques, culturels ou sportifs. On travaille, quels partenaires ? On travaille aussi avec des enseignants hein, qui interviennent au sein du dispositif. Donc voilà, en gros, il y a les partenaires institutionnels et il y a les partenaires associatifs. Dans le cadre de nos actions éducatives qu'on met en place.
Comment se passe la relation avec les jeunes ?
Bah, elle est plutôt assez sereine, assez posée. Les jeunes, quand ils intègrent le dispositif, ils sont dans une dynamique d'effort et de volonté de reconstruire quelque chose. Donc en fait, le cadre, il est il est très bienveillant. On part de la volonté ou du projet du jeune et on essaye de le mettre en place. Donc ça marche par confiance mutuelle. Donc la confiance, ça ne s'établit pas du jour au lendemain forcément, dans le temps. Donc on a besoin de beaucoup de temps à consacrer aux jeunes pour que cette relation s'instaure et soit bénéfique.
Un souvenir marquant, une réussite, une anecdote, une rencontre qui vous a marqué ?
Alors, il y a des souvenirs marquants, bien entendu, qui sont pas forcément à raconter comme ça au micro, parce qu'il y a des choses assez personnelles sur des situations vécues. Donc, il y en a plein, mais il y a beaucoup de sourires, en fait, au dispositif relais, parce que on est en interaction en permanence avec les jeunes, et de ce fait... On les connaît bien sur toute une journée, on partage un certain nombre de tâches, d'actions. Donc il y a plein de... Voilà, ce qu'on a le plus, c'est ça, c'est une évolution positive. Une anecdote pure, là, comme ça, Tom, à te raconter, il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus de 30 secondes pour pouvoir t'en sortir une correcte. C'est bon ? Enfin, ça enregistre toujours ?
Ok.
Donc oui, Tom, je vais te raconter une brève anecdote. Il y a 2 ans de ça, j'ai été sollicité par rapport à ce qu'on recrute tous les ans des jeunes en service civique, des missions de service civique. Et il y a 2 ans, j'ai un coup de fil d'un jeune sur mon téléphone portable d'une personne qui postule sur cette candidature de mission de service civique. Et c'est un jeune, en fait, je me rends compte rapidement, au bout de 2-3 minutes de conversation, c'est un jeune que j'avais eu 4 ou 5 ans auparavant au sein du dispositif relais. Et donc, qui avait suivi son parcours en voie professionnelle par la suite, qui a pas réussi ou en tout cas qui a pas été jusqu'au bout de son diplôme et qui était en train de se repositionner dans le cadre de son projet professionnel, donc qui devait avoir 19 ou 20 ans et donc qui souhaitait travaillé auprès de jeunes. Et donc, il avait vu ce recrutement et il avait candidaté pour venir en mission de service civique. Donc, on a fait, ça a été directement un oui. Alors, après plusieurs rencontres avec le chef d'établissement. Et en fait, on a formalisé le dossier pour finaliser le recrutement. Et ce recrutement, malheureusement, n'a pas pu se faire parce que quand on est jeune, quand on veut s'engager vers une mission de service civique, il faut avoir un casier du judiciaire vierge, ce qui n'était pas son cas. Donc on n'a pas pu faire aboutir cette mission. Mais c'est vrai que c'est une anecdote que je garde en tête puisque c'était un peu pour moi la boucle est bouclée. C'était un jeune que j'avais eu sur une session, qui avait fait son parcours et qui revenait vers nous pour s'engager de l'autre côté, on va dire. Voilà, Tom.
Bah, merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre et au revoir.
Merci, Tom. C'était un grand plaisir de répondre à tes questions et merci pour la qualité de ton travail.
Ça fait plaisir.
Est-ce que ton étiquette, elle est bien placée? Excuse-moi, elle est là. Bah, en fait, c'est ça ton repère. Tu vois, l'étiquette, elle est là. Ah bah non, regarde comment t'es loin. À la couture, chef. Là, si tu te mets là, ton logo, il va tomber ici. Là. Donc, le but,
ouais, c'est pas
je te remontre. Tu prends ton t-shirt. Tu l'enfiles jusqu'en haut. Tu le mets. Tac, comme ça. Là, je vois que je suis centré, mon étiquette. Ça, c'est le milieu. Une fois que je suis centré comme ça, j'attrape mes dessous de bras. Je regarde. Hop, je vois que je suis droit. Une fois que je vois que je suis droit, je recule droit.
Merci, copie. Et en fait, les cafés,
je me pose à la couture. Je repasse. J'emmène mon truc.
Merci copine, on fait sur la table.
Je mets de l'encre. Oh, vous m'avez tout beurré là-haut, du coup on peut plus toucher quoi que ce soit. Je vais essayer de vous enlever un peu.
Voilà,
mais...
Et pour pas beurrer.
Bah, en fait là le problème, je vous explique pourquoi. Maintenant qu'il y a de l'encre là, quand je vais toucher mon cadre et que je vais faire ça et que je m'en mets sur le doigt, j'attrape le t-shirt et je fous de l'encre sur toute l'épaule sans le voir. Ce qui fait que tu es capable de faire toute la série du client et de faire une tâche. Donc on ne vient jamais étaler l'encre en haut, en fait, pour pouvoir manipuler son cadre. Et là, tu vois, si je continue sans voir, je tiens la spatule, je fais ça, et là, je viens d'en mettre là.
Voilà.
Du coup, la fois d'après, j'en remets sur l'autre doigt, et ainsi de suite. Merci. Et à la fin, tu ne peux plus toucher tes vêtements. Donc, pour ce faire, on va prendre un petit. Tiens, la petite spatule qui est là, on va essayer d'en racler un peu.
Et l'objectif, c'est qu'il s'arrête à la fin du... Enfin, s'il arrive à le voir, à la fin du métrage, quoi. Elena, tu checkes ça, s'il te plaît, t'es le chef de ligne, aujourd'hui.
Ouais. D'accord. T'es notre service civique. Voilà. J'incline un petit peu, tu vois le beurre que j'ai là? J'incline un tout petit peu, j'appuie pas fort. Regarde avec deux doigts. Je pose mon encre. Là, je la pose. Je veux pas qu'elle passe à travers. Une fois que je vois que j'en ai partout là, je reviens là. Et là, j'appuie un peu plus fort. Tu vois la flexion? Et quand je fais la flexion, j'avance sans m'arrêter. Je fais pas des. Je fais pas ça. Je fais ça. Je m'arrête avant le rebord. Je soulève, je pose,
je regarde.
Je check.
Et là, tu checks s'il y a des petits points à l'intérieur ou quoi.
Il n'y a pas de point, moi, parce que j'appuie suffisamment fort. Ce qui fait que vous n'avez pas, c'est que vous n'appuyez pas suffisamment fort. Quand on refait le truc, je vous remontre, il y a le caoutchouc qui est là. On met ses doigts plus bas. Vous, souvent, vous tenez comme ça. Donc, vous forcez, mais vous n'avez pas de force. Alors que sans forcer, là, j'ai de la force. Quand j'ai de la force, j'y vais en une fois. Je lève. Je soulève. C'est nickel.
Ça a l'air d'être tellement simple.
Je te laisse mettre celui-là dedans et t'en refais un. Après, il y a un gazier. Vas-y, là. faut pas que vous soyez en panique ou quoi, hein, comme on vous a dit, t'en loupes un, mais de toute façon, la chance qu'on a, c'est que c'est un rond. Donc déjà, un rond, on ne met pas de travers.
c'est déjà la force numéro un du truc, c'est ça.
Yeah. Voilà, man. Donc top, vas-y, refais-en, parce que je t'ai tout piqué ton job. Là.
Je te le mets bien au centre, pour pas montrer avec le petit trait, yeah. Tout.
En fait, j'ai que plus dur à faire.
C'est ça.
J'avoue. De rien, Luna, ça me fait plaisir. Bon, voilà,
bonjour, comme vous avez pu l'écouter, et suite à ce projet, nous nous sommes questionnés sur l'impact de la situation actuelle en lien avec les commerces.
Pour cela, Enzo, Mathias et moi, nous avons tendu notre micro auprès des citoyens de la ville d'Évreux. Pour avoir leur avis sur ces questions, je vous laisse écouter nos micro-trottoirs. Bonne écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous de la situation actuelle des commerces avec la Covid?
Bah, c'est catastrophique pour les commerces.
Je pense qu'ils sont mal soutenus par soit la population, soit par le gouvernement. Alors ça dépend de leurs produits de vente. Par exemple, je vois pas pourquoi on fermerait certains bistrots, par exemple, si les gestes barrières sont bien respectés et on interdit certaines choses, quoi. Voilà. Bon, je vais pas rentrer un peu plus dans le détail.
Ah bah c'est compliqué surtout pour les commerçants parce qu'ils n'ont pas de quoi assurer leurs finances, quoi, simplement.
De Nétroville, vous parlez?
Oui.
Ouais, ça va, impeccable, il n'y a pas de problème.
C'est compliqué, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On doit tous passer par là. Donc, mais pour les pauvres, pour eux, c'est la galère. Je pense qu'on va perdre beaucoup.
Bah, je pense que c'est pas bien pour eux. Moi, j'ai pas de commerce, mais bon, ça doit quand même les embêter de pas pouvoir faire ce qu'ils peuvent, quoi.
Ouais. C'est très dur pour eux, malheureusement. Hein. Tout le monde est touché. J'espère qu'ils vont réussir quand même.
C'est très compliqué pour tout le monde.
J'aimerais bien qu'ils rouvrent parce que ça nous manque quand même, le grand commerce à Évreux. Surtout que c'est en ville, donc c'est la préfecture de l'Eure, donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien Évreux, hein, venir à Évreux.
Oui, je ne voudrais pas être commerçant.
Trouvez-vous ça normal qu'il y ait des commerces ouverts et d'autres fermés, et pourquoi ?
Non, je trouve pas ça normal. Après, pourquoi moi je suis pas homme politique ou voilà, donc je sais pas, peut-être qu'il y a des raisons que nous on connaît pas, quoi. Mais sinon, non, je trouve pas que ce soit normal. Non.
Alors ça dépend malheureusement de la situation propre à chaque commerce. Mais à partir du moment où on peut respecter les gestes barrières, moi je vois pas d'inconvénient à ce que tous les commerces soient ouverts s'il n'y a pas 36 000 personnes partout qui s'entassent.
Ça répond à la question de tout à l'heure, donc non, je trouve pas ça normal.
D'accord. Et pourquoi ?
Ben, ça dépend quoi. Par exemple, les petits commerçants dans le centre d'Évreux ou dans le centre-ville, peu importe, et qu'on les ferme, alors qu'on privilégiait les grands groupes, genre la zone industrielle commerciale de Carrefour, si je prends Évreux. Eh bien, c'est favoriser les gros et puis les petits, eh bien, d'accord, des fois, ce sont des gérants de grosses entreprises qu'on peut éventuellement boycotter, mais ils ont mis leur fric de leur propre poche, ils ont un loyer à payer, c'est les petits, et ils ont des crédits. Alors que les gros, ils sont soutenus par le gouvernement donc ou par l'État, peu importe.
Ah non, ça je trouve pas ça normal. Les grandes surfaces ouvertes et les petits commerces pas ouverts, ça je trouve pas ça normal de tout ça.
Bah moi je vois que tous les commerces sont ouverts. Hein. Moi je parle de Nétroville, hein, moi je les vois toujours ouverts. Hein.
Bah non, parce que je pense que tous les commerçants, mais les petits comme les grands, font ce qu'il faut pour y arriver. Et je trouve ça dommage qu'on pénalise certains et pas d'autres.
Les bars, les discothèques, tout ce qui est pour nous amuser après le travail, quoi. Quand on veut décompresser après le boulot, il n'y a plus rien en fait, quoi. Donc oui, ça nous manque beaucoup, ouais. Ouais.
Bah non, je veux même qu'ils soient tous ouverts, mais quand on peut pas faire autrement, si les gens sont malades, on peut pas prévoir. Et puis, c'est-à-dire que voilà. une fois qu'ils sont au chômage, bah, ils en profitent hein, quand même.
Oh, il en faut pour tout le monde. Hein. Et malheureusement, comme les restaurateurs, les cafés, tout ça, ils ont besoin de travailler aussi.
Non, je trouve ça inadmissible pour les restaurateurs.
Les petits commerces sont fermés, hein, sont interdits d'ouverture. Mais la librairie est ouverte, les supermarchés le sont. Je ne sais pas, je suppose que le gouvernement essayait de trouver un équilibre, mais j'en sais trop rien.
Qu'est-ce qui vous manque le plus comme commerce ou activité?
Je ne vais pas trop au centre-ville, alors non, c'est... Hein?
Les restaurateurs pour tout le monde?
Oui, les restaurateurs, oui.
Restaurant. Peut-être les bistrots, ce côté social, le côté relationnel des gens, l'humanité. Sinon, si on respecte les gestes barrières, il n'y a pas de souci là-dessus.
Bah, les restaurants, les lieux où on peut se rencontrer, ça quoi.
Pour l'instant, ça va. Bon. Bah, en ce moment, tout le monde est bloqué et personne ne peut sortir et puis c'est tout. Hein.
Bah, les bars et les pour aller voir dans les salles de concert aussi. Non, c'est vrai, salles de concert, ça nous manque. Hein. On en a marre. Les restaurateurs.
Bah, les snacks, les restaurants, les petites. Les boulangeries pâtisseries, les bars tabac, les bars, moi j'aime bien m'arrêter de temps en temps, boire le café, discuter avec les gens.
Pour moi ça va puisque j'habite à côté d'un supermarché et de temps en temps je vais à la librairie. Donc j'ai pas trop de problèmes, il faut le reconnaître.
Avez-vous modifié vos habitudes d'achat et si oui lesquelles?
Bah, pas vraiment, mais beaucoup d'internet en fait.
Merci, ça sera tout. Au revoir, bonne journée.
Bon courage.
J'évite d'aller. Quelque part, je suis un. Allez, je vais lancer le mot. Je suis acratique. À regarder dans le dictionnaire, je suis contre les gros groupes. Je vais jamais à Carrefour City, à Carrefour machin là-bas. Je privilégie les petits, donc le centre-ville. J'ai même fait mes achats en centre-ville pour les fêtes de Noël. Et donc je vais pas sur Amazon et eBay et Le Bon Coin et compagnie. Ah, quoique Le Bon Coin, ben non, maintenant que ça a été racheté par un gros groupe, j'y vais pas.
Je fais des drives maintenant pour faire mes courses. Que je faisais pas avant. Voilà.
Non, comme d'habitude. Non.
Bah, plus en les petits commerçants. Je vais moins dans les grandes surfaces. C'est
tout. Au revoir, bonne journée.
Merci, oui.
Toutes. On n'a pas le choix, on achète plus sur internet, on sort moins dans le centre-ville, on évite un peu les gens, donc. Voilà.
Merci, bonne journée, au revoir.
Bonne journée, jeune homme.
Non, c'est toujours pareil. Hein.
Non, pas du tout.
Non.
Merci, bonne journée. Oui.
Bon, ça vous coûtera 5 euros chacun.
Aïe, ça fait cher. Bonne journée, au revoir.
Merci d'avoir écouté cette émission, garnie d'une interview de Ludovic Tarieux, gérant du Cartel Shop, qui nous a permis de réaliser la sérigraphie. Vous retrouverez mon interview où je vous décris le projet et le pourquoi du comment. Pour continuer sur cette lancée, vous pouvez écouter Olivier, graffeur qui intervient au sein du Dispo Relais, qui nous a aidés pour la réalisation de notre logo. Pour la description du Dispo Relais, M. Schimacher saura vous éclairer. À la fin de terminer cette émission et pour boucler le projet, nous avons réalisé des micro-trottoirs créés par nous, dans le centre-ville d'Évreux, et le tout entrecoupé de sons et d'ambiance. Et encore merci à l'équipe du projet. Enzo, Vincent, Elena, Tom, Stanley, Mathias, les accompagnants, Olive, Alexis, Chris, Aline. Un gros merci au meilleur Damien. Très cool, bonne ambiance. Merci pour la Ligue de l'enseignement, les financiers du projet. Merci à tout le monde. Vous pourrez retrouver en podcast sur le site de la radio. À bientôt, prenez soin de vous.
Les émissions des quartiers. c'était impressionnant quand même.